n'entend pas le bruit. Ça tourne, oui. Ça tourne. Ça tourne, si, ça tourne. J'attends. Bon.
Action.
Kinopsis. L'actualité du cinéma sur votre radio locale.
Calade. Ma radio.
Bonjour à tous, Kinopsis, énième émission, ça doit être la septième je crois, ou la sixième, mais peu me chaud. Alain, bonjour.
Bonjour Guy.
Aujourd'hui on parle de nombreux films, je crois encore.
Oui, bien sûr.
Mais pas seulement, puisqu'on reçoit...
Bérangère Guédon.
Qui est...
qui est directrice des 400 coups.
Voilà, et ben, pas de blanc hein, dans l'émission, tu sais que c'est interdit
non.
Les blancs.
Oui,
hein.
Oui. Mais tu vas donc, faire en sorte de bien manipuler.
Oui, bien sûr. On va commencer par parler de certains films.
Oui.
Je te laisse la parole.
Alors, c'est un mois un petit peu plus calme, le mois de mai. Il y a un peu moins de films que les mois précédents.
Mais comment se fait-il?
Ben, je ne sais pas, peut-être Festival de Cannes oblige.
Ah ben oui.
Non, c'est possible.
Oui, hein. Oui, c'est loin de ça. Ouais.
Tous les professionnels sont là-bas, forcément. Donc, il y a, au lieu d'en avoir 90 comme les autres mois, là, on en a plutôt une soixantaine. Mais ça n'empêche qu'il y a de quoi être bien, bien occupé, parce qu'il y a des films très intéressants. Voilà. Et il y a des films qu'on a vus, il y a des films qu'on n'a pas vus, mais qu'on aimerait voir. Et on va peut-être commencer par ça.
Ceux qui t'intéressent, mon garçon.
J'y vais.
Vas-y.
Ou tu en as...
Non, vas-y, je te laisse la parole.
D'accord. Donc, le premier, c'est Oli. Oli, c'est d'Antoine Besse. Voilà, ça...
On peut peut-être préciser l'orthographe du mot Oli, parce que ce n'est pas en deux mots, je crois.
Non, c'est... Alors, c'est O-2-L-I-E.
On est bien d'accord.
Voilà. Et donc, c'est un premier long métrage donc, qui s'inscrit dans la continuité d'un court métrage qu'il avait fait précédemment, qui s'appelait Le skate moderne. Donc voilà, qui explore l'adolescence rurale, c'est une particularité de certains films en ce moment, tournés vers les régions. Et donc c'est un court-métrage sur la passion du skateboard. Et le film donc est prévu en sortie le 21 mai. Il a été présenté en avant-première au Festival francophone d'Angoulême et au Festival international de francophone aussi de Namur. C'est la partie wallonne.
Wallon.
De la Belgique, oui. Mmh. Où il a reçu le prix du jury junior. Donc voilà, déjà, ça met un petit peu le projecteur sur ce film. Donc Oli raconte l'histoire de Pierre. C'est un adolescent de 13 ans qui, après le décès brutal de sa mère, retourne vivre à la ferme de son père, qui lui subit la crise économique qui frappe sa profession. Voilà, donc il est victime de harcèlement scolaire. Pierre trouve refuge dans le skateboard et dans la rencontre avec Bertrand, un marginal au passé de skateur. Et ça marque le début d'une relation mentor-élève atypique, en fait. Au-delà de la passion pour le skateboard, Oli aborde des thématiques profondes telles que le deuil, le harcèlement scolaire, la marginalisation du milieu rural. Et le film traite ces sujets avec sincérité, évitant le pathos, et offre une réflexion sur la reconstruction personnelle et l'importance des liens humains.
Bougre.
Oui. Alors, une petite particularité quand même du film, c'est cet ancrage géographique qui fait écho aux sorties ces derniers temps de films comme, là on remonte un petit peu dans le temps, c'est Chien de la casse de Jean-Baptiste Durand, de Miséricorde d'Alain Giraudy, de Vain Dieu
de
Lys Courvoisier, qui est une production qui a été aidée par Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, financée en partie.
La réalisatrice est lyonnaise.
Elle est savoyarde.
C'est ce que je voulais dire.
Ouais. ils vont être contents, les Savoyards. Et puis, bien sûr, La Pampa d'Antoine Chevrier, qui témoignait déjà d'une ambition nouvelle du cinéma français de quitter Paris et de décentrer son regard. C'est aussi le travail fait par les régions pour financer et soutenir les productions qui viennent tourner dans les régions, à l'instar d'Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma. Voilà.
Bien.
Et tu sais ce que c'est, Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma? Non.
Non, je ne suis pas du tout au courant. Mais tu vas nous apprendre ceci, bien sûr,
ouais,
dans les minutes qui suivent. Non, tu pourrais peut-être parler d'autre chose qu'Auvergne-Rhône-Alpes. Tu n'avais pas un autre film dont on va peut-être écouter la musique ultérieurement?
Oui, je vais parler d'Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma quand même. Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, c'est une société anonyme. Non, mais il faut le savoir parce que c'est important. Cinéma, il vit parce qu'il y a des finances. Donc voilà.
D'accord.
Donc en fait, c'est un organisme qui finance. Alors c'est partagé entre la région, un tiers, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, un tiers, et la Banque publique d'investissement, un tiers.
D'accord. Voilà. Et ça sort quand ?
Et ça sort en permanence. Et donc, c'est eux qui financent tous ces films.
D'accord. Et le lien avec ce qu'on a vu précédemment,
c'est... Oli est financé par Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma aussi. Okay. En partie, mm-hmm. bien sûr, parce qu'il y a le CNC qui est aussi là. Voilà.
Bien.
On passe au suivant,
si tu veux bien.
Alors, le suivant, c'est pour changer un petit peu. C'est Mission Impossible.
Ah là là, Mission Impossible.
C'est un peu comme nous quand on fait une émission de radio.
C'est un peu la même chose.
C'est carrément Mission Impossible. Donc, Mission Impossible. Alors, c'est Final Reckoning, qui veut dire le jugement final en français dans le texte. Mais c'est mieux de le dire en américain. Et le film est présenté quand même hors compétition au Festival de Cannes.
Un beau grand.
Ouais. Tu vois, hein ?
Ah, mais je vois bien, oui.
Tu nous parleras de Tom Cruise.
Je vais vous parler de Tom Cruise tout à l'heure, oui. Je vais me faire du bien.
Bon, moi, je n'ai pas vu le film.
Ah, bougre !
Non, parce qu'on n'est pas invité aux avant-premières, genre de... Non, pas encore. Voilà, Radio Calade n'est pas connue à ce point-là. Mais on va faire ce qu'il faut.
Ça y est, tu as parlé du film, là, peut-être ?
Non, j'ai vu que la bande-annonce. Alors, le jugement final donc, repousse une fois encore les limites du cinéma-spectacle. Tom Cruise, toujours prêt à défier la gravité.
Ah bah ça.
Il livre ici certaines des cascades les plus folles jamais filmées, comme toujours.
Hein. Ceci dit, il a un centre de gravité relativement important dans la mesure où il est quand même bien payé, je crois, ce monsieur.
Oui, ça doit peser, ça.
Ça doit peser, hein. Ouais.
Pour rejoindre la Terre le plus rapidement possible.
Voilà.
Donc, sans doublure, sans fond vert, et juste une pure volonté de repousser le réel. Mais moi j'aime bien ce genre de film, ça change et voilà. La mise en scène est millimétrée, haletante, il ne vous laisse pas un instant de répit. Chaque séquence est une montée d'adrénaline, fusillade, course-poursuite, combat à main nue, tout s'enchaîne avec une virtuosité impressionnante. Donc c'est le casting habituel et forcément c'est un rendez-vous immanquable pour ceux qui veulent vivre le cinéma avec comme un grand 8 sensoriel, en fait.
Voilà. Peut-être que Bérangère a un mot à dire sur...
Mission Impossible, je ne les ai pas tous vus, mais en tout cas, c'est toujours réjouissant, ces films de grands spectacles avec des cascades millimétrées. Mm-hmm. Donc voilà, c'est le retour de Tom Cruise, quoi.
Voilà, l'éternel retour. Est-ce que tu veux qu'on se fait une pause musicale ?
Oui.
Alors avec la musique du film, donc. Hein.
Bah oui,
voilà,
on n'a tant qu'à faire.
On y est. We'll be right back. Voilà pour Mission Impossible qui est sur les écrans depuis... Qui sort quand, Alain ?
Le 7 mai.
Le 7 mai, donc depuis aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui le 7 mai ?
Je sais plus, je n'ai plus les dates, tu me prends de court.
Bien. Bérangère, on s'adresse à toi maintenant pour savoir un peu ce qu'est ta fonction aux 400 coups que tu diriges depuis quand ?
Depuis 2 ans et demi. Mmh. Voilà, donc c'est une salle de cinéma de 3 écrans à Villefranche-sur-Saône, dans l'hypercentre de Villefranche. Salle classée à RSA, avec aussi des labels, justement de la RSA, c'est-à-dire le label Jeune Public, le label Patrimoine Répertoire, et puis aussi, on fait partie du réseau Europa Cinéma. Voilà.
Ah oui, alors... Qu'est-ce que c'est le réseau Europa Cinéma ?
Ça vient en fait valider, on va dire, en tout cas c'est en regard de notre programmation de films européens. Voilà, donc on en programme un certain nombre tout au long de l'année. On les met en valeur avec des accompagnements tout au long de l'année. Donc voilà, on a ce label-là.
Mais des films européens, de quel pays précisément ?
Alors, il y a toute une liste de pays. D'accord. Qui est précisée par ce label, en fait. Et voilà, l'idée, c'est vraiment justement d'aller montrer des films autres que le cinéma français, bien. D'accord. Sûr, hein, oui. Mais voilà, de toute l'Europe.
Bien. Alors.
C'est comme ça fonctionne un peu comme la référence ou le référencement, classement à RSA avec les labels, ou c'est sur le même principe, ou ça apporte aussi éventuellement des subventions, des choses.
Ça, ouais. Ça apporte une petite aide, en effet, oui. Et surtout, c'est vrai que c'est. Enfin, nous, ça correspond aussi à nos souhaits, hein, de mettre en valeur le cinéma européen. Parce qu'il est très divers et voilà, le cinéma italien n'est pas le même que le cinéma finlandais. Enfin voilà, on a une diversité de productions qui est toujours passionnante et du coup voilà, ne serait-ce qu'avec aussi nos rencontres, on a souvent du cinéma belge au moment des rencontres du cinéma francophone. Donc voilà, en fait, on, avec toute cette programmation, on peut prétendre à ce label. Voilà.
Au sein des 400 coups, tu es seul à œuvrer, vous êtes plusieurs.
Ah.
Comment
non,
ça
on
se
est
passe
toute une équipe. Ah. Ouais. Une équipe de. Alors, on est même 7 salariés.
7 salariés.
Mais en fait, on équivalent temps plein, on est 4,5. Hein, donc voilà, ça reste quand même une petite équipe en termes d'heures pour un cinéma qui est ouvert 7 jours sur 7.
Mmh. Ah, oui.
Mais voilà, on est une équipe, en effet, c'est important, puisqu'il faut, assurer les projections, l'accueil au guichet, la programmation, les animations, l'accueil des scolaires. Voilà.
Qui est-ce qui fait la programmation ? Alors, c'est directement le cinéma ou comment ça
oui.
se passe, la programmation ?
Alors, la programmation, c'est moi qui m'en charge. Alors, programmer, c'est-à-dire prendre les contacts avec les distributeurs, voilà, je m'en charge, c'est mon travail. Après, pour le choix des films, je m'appuie aussi sur un groupe de l'association L'Autre Cinéma, le groupe programmation, qui, lui, va faire des choix aussi de films qu'on va programmer, ce qu'on appelle en décalé, c'est-à-dire pas les sorties nationales. Voilà, et donc c'est un peu nos choix ensemble que j'additionne un petit peu pour construire une programmation à la fois avec des souhaits de l'association Cinéphile L'Autre Cinéma et puis mes propres choix aussi, voilà, par rapport à l'actualité du cinéma, à notre ligne éditoriale, par rapport à l'historique de ce cinéma qui a déjà 33 ans.
Et les choix des uns et des autres se rejoignent ?
Oui.
Il n'y a pas de dissension.
Non, mais c'est important en plus parce que du coup, c'est un groupe forcément pluriel avec des goûts distincts. Mais voilà, après, ils se mettent d'accord par un système de vote, hein, tout simplement. Donc, les choix issus de ces réunions, sont moi, je les intègre ensuite dans la programmation dès que c'est possible en termes de date.
Et en un mot, la ligne éditoriale, quelle est-elle ?
Alors, c'est vaste.
Non, mais justement.
Mais disons que, voilà, non, mais l'idée, c'est vrai qu'on s'inscrit vraiment dans la ligne droite, on va dire, dans la ligne des, de, voilà, de ce qu'est un cinéma art et essai. Voilà, donc c'est vrai que nous, c'est vraiment 100% de notre programmation. Hein.
C'est 100% art et essai.
Oui. Oui, tout à fait. Donc déjà, le choix de programmer des films en version originale sous-titrée, ouais. Le choix d'être le plus divers dans l'origine aussi des géographiques des productions. Donc voilà, c'est important d'avoir cette fenêtre ouverte sur le monde du cinéma au sens vraiment large. Des films d'auteur dans le sens où voilà, des films... pour la plupart écrits par leur cinéaste, faire de la place aux jeunes créateurs et créatrices, accorder de la place aux jeunes publics, donc avec des programmations et des animations pour eux.
Animations de quel type ?
Alors, on a des ciné-goûters mensuels tous les mois. On a des ciné-ateliers à chaque vacances.
Et ciné-ateliers signifiant ?
Alors, ça dépend. Notre médiatrice des publics va proposer des ciné-ateliers soit d'ordre créatif, c'est-à-dire refaire une petite construction en lien avec un film vu. Voilà, ça peut être des jeux. Voilà.
Ce qu'on retrouve à Belleville.
Oui, et aussi à la passerelle de Prévost, où il y a aussi Laura.
Laura, notre médiatrice des publics et commune aux deux cinémas. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment de prolonger une séance de cinéma par quelque chose d'un petit peu ludique, mais qui va permettre de... aussi de repenser au film qu'on a vu. Donc pour l'enfant, c'est tout à fait intéressant. Et puis ça lui laisse aussi un très bon souvenir de son passage au cinéma. On accorde...
Kinopsis.
Désolée, je t'ai coupé la parole, c'était pas prévu. Tu allais dire ?
J'allais dire qu'on accorde aussi de la place, c'est important pour nous, au cinéma de patrimoine.
Ah oui.
Voilà, avec des rendez-vous ciné-collection, voilà, en partenariat avec le GRAC. Donc le GRAC, c'est le réseau de salles de proximité auquel on adhère sur le territoire, voilà, sur notre territoire. Du Rhône, mais c'est assez élargi comme territoire, le GRAC.
Oui, donc, parce que les visios ont lieu un peu partout, sur les départements limitrophes.
En fait, GRAC, c'est Rhône 1 et Loire aussi.
Ouais, c'est ça. Ouais. 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 Important, le GRAC, non ?
Alain. Oui, c'est important. C'est important pour...
On pourrait rappeler de quoi il s'agit précisément et en quoi c'est important.
Comme disait Bérangère, c'est le groupement régional d'action cinématographique.
Et ce qu'il propose.
Ce qu'il propose, c'est justement d'accompagner les exploitants. Il propose des accompagnements de films. Il monte des tournées, des fois avec les réalisateurs ou avec les équipes du film. Il propose des visionnages pour les professionnels qui exploitent les salles, de façon à ce qu'ils aient une vision grand écran de film quelques mois, un mois, deux mois avant la sortie. Quoi.
C'est ça. Bien. À propos des spectateurs, du nombre de spectateurs et de la salle des 400 coups, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que vous avez beaucoup de spectateurs ? Est-ce que c'est un cinéma qui attire le public ? Quelles sont les conditions ?
Oui, bah, disons que bon, c'est tout est à mettre en proportion. On est une salle avec une programmation bien spécifique, mais néanmoins, oui, c'est un cinéma qui a 33 ans, qui a un public fidèle de cinéphiles, mais qui a aussi constamment cherché à élargir son public. Donc notre fréquentation, elle se porte plutôt bien. D'abord, il y a une grande cinéphilie sur le territoire. Donc ça, c'est très agréable. Il y a du répondant quand on propose des séances spéciales, des présences d'invités, etc. Donc il y a un vrai appétit pour le cinéma à Villefranche et plus largement sur le Beaujolais. Donc ça, c'est très agréable. Il faut toujours aussi être... Ça nous oblige d'être au rendez-vous... Dans notre programmation, de pouvoir à la fois satisfaire les envies, mais aussi proposer nos propres découvertes. Donc, je dirais que, voilà, pour l'instant, au niveau fréquentation, ça va. C'est toujours... c'est fragile. parce qu'on n'est pas tout seul et parce que voilà, il y a d'autres.
Puis il y a un équilibre financier.
Exactement.
On ne peut pas y échapper.
Oui. Et puis on sait très bien qu'on propose aussi des films qui voilà. Enfin, la fréquentation, elle se voit au global, mais en fait, il y a des films qui vont remporter le morceau et ouais. d'autres qui vont être bien plus fragiles, dont on sait que voilà. Mais nous, on tient à les proposer quand même. Voilà, on n'est pas dans cette recherche, voilà, de choisir les films que pour leur potentiel, ouais. Voilà, de programmation, enfin de fréquentation.
Oui, puis c'est un public qui est fidèle, qui est, voilà, c'est presque une institution, les 400 coups.
33 ans d'existence.
33 ans d'existence. Et voilà, donc c'est un public qui a été fidélisé, attaché à la salle.
Oui, il n'y a qu'une salle, on est bien d'accord.
Non, il y en a trois.
Il y a trois écrans.
C'est ce que je voulais dire.
Il y en a trois. Et trois, c'est quoi les capacités à peu près? C'est pas des petites salles, hein, c'est voilà.
Alors, on a deux salles à peu près similaires, une de 143 sièges et l'autre de 168, et une troisième salle de 72. Un petit peu plus petit.
Voilà, donc ça permet d'avoir, c'est le cas de la programmation, d'avoir un tournant de films, enfin une rotation de films qui est intéressante et de pouvoir offrir une gamme assez large de films semaine après semaine.
Et par semaine, en moyenne, combien de films sont projetés?
Je dirais une dizaine entre...
Ah ouais, quand même.
Oui,
ouais. Oui, il y a trois salles.
Oui, oui, et puis c'est vrai que ça nous permet de, voilà, d'inclure des sorties nationales quand même presque toutes les semaines, parce qu'on a la capacité de répondre en termes de nombre de séances. Mais voilà, après, Alain le disait tout à l'heure, il y a un nombre foisonnant de films qui sort, donc de toute façon, c'est toujours frustrant de programmer, puisqu'il n'y a jamais la place pour prendre tous les films.
C'est étonnant quand même, cette profusion de films qui sortent chaque semaine, c'est entre 20 et 40, parfois un peu plus, c'est énorme, non? Et choisir dans cette profusion les films qui vont et satisfaire le public et notre appétit à nous aussi, parce que ça marche dans les deux sens. C'est pas évident, hein.
Mais c'est la diversité des profils de salles. La salle des 400 coups, c'est pas la même que celle de Belleville, ou c'est pas la même que celle de Trévoux. À Trévoux, il y a des films qui sont pas passés parce que c'est un public trop peut-être art et essai ou cinéphile, ou voilà. Alors qu'au 400 coups, il y a la possibilité, parce que c'est un public qui a été fidélisé par la salle et qui a amené cette vision de diversité de films, que ce soit art et essai, mais aussi peut-être de recherche, et, voilà, de films de recherche. Voilà, c'est ce genre de choses. À Belleville, par exemple, il y a les deux. Parce que c'est une salle qui est... Il y a une grande salle et une petite salle. Et donc, d'un côté, tu as de l'art et essai, et de l'autre côté, tu as du film grand public.
Ce qui est, et puis, c'est le seul cinéma de la ville.
Et c'est le seul cinéma de la ville. Aussi, ouais. Alors qu'à Villefranche, il y a la difficulté pour les 400 coups du multiplex qui, lui, prend tous ces films grand public.
C'est une difficulté?
Je pense que c'est surtout une complémentarité pour les spectateurs du territoire. C'est vrai que ça leur fait un choix énorme. Quoi. Donc après, non, chacun a sa programmation. Et le tout, justement, c'est d'être une vraie complémentarité pour les spectateurs.
Je propose une petite pause musicale. En attendant, c'est Mexico 86. Et c'est tout de suite. Thank you. Voilà, ça c'était pour Mexico 86. Bérangère, je crois que vous avez programmé le film.
Oui, nous l'avons programmé au cinéma Les 400 coups, oui, tout à fait. Un très beau film avec Bérénice Bejo qui pose la question de aussi qu'est-ce qu'être parent et quand on a un engagement politique dans cette période de dictature, quoi. Donc vraiment très très, oui, très très bon film.
Alain, je te laisse la parole.
Donc,
voilà, tu es désappointé.
Bien sûr, tu sais me prendre à contre-pied, mais on parlera du foot tout à l'heure avec le film Les Arènes.
Ah, j'adore, oui, j'adore.
Ouais. Tu nous feras une bonne transition. Bah
oui, bien
à ce
sûr.
Et donc, il y a des films, un cinéma, c'est fait pour ça. Mais il n'y a pas que des films les uns après les autres. Il y a aussi aux 400 coups des événements, des animations. Et on peut peut-être parler de ces événements qui sont prévus sur le mois de mai.
Oui, en effet. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de cinéma de patrimoine. Nous avons plusieurs rendez-vous liés à des films du répertoire ce mois de mai. Deux rendez-vous ciné-collection. Qui ce mois-ci, donc, parce que donc Ciné Collection fonctionne par thématique, et cette fois-ci c'est Memorias y Sentimientos en espagnol. Donc c'est un cycle qui est consacré au cinéma espagnol. On va proposer La Fleur de mon secret, donc un des nombreux films de Pedro Almodovar, le vendredi 16 mai à 20h, et le mardi 27 mai. À 20h15, on proposera Tasio. Donc là, c'est vraiment une perle rare, un film très peu connu de la partie basque de l'Espagne. Donc un film de Mancho Armendariz, pardon. Donc voilà, ces deux films feront l'objet d'une présentation. Et puis, donc, troisième film du répertoire qu'on va proposer le jeudi 22 mai à 20h, c'est L'Impasse de Brian De Palma. Donc voilà, film de 1994 qu'on est très heureux de proposer en partenariat avec Jean-François Buret, donc un intervenant en cinéma que nous accueillons très régulièrement, qui est vraiment passionnant. Et il vient d'écrire un livre à propos justement de ce film, donc un livre analyse, voilà.
Tout un livre sur le seul film.
C'est ça. Ah ouais. Ça s'appelle De Palma, Mana Cinema. Alors j'imagine, je ne l'ai pas encore lu, hein, mais j'imagine que ça va... comment dire,
ça va déborder
forcément, oui. Mais il part de ce film-là, en D'accord. effet. Voilà. Okay. Donc ça va être vraiment tout justement intéressant de voir ou revoir le film ce soir-là, de participer à l'échange ensuite avec Jean-François Buret. Et puis, pour ceux qui le souhaitent, il pourra dédicacer son livre. Ah, oui. Donc voilà, une séance vraiment cinéphile. Pour tous ceux qui aiment le cinéma de Palma, ça va être un chouette moment.
D'autres événements aux 400 coups ?
Oui, alors là, c'est un événement qu'on est très heureux de présenter. C'est le lundi 26 mai. On va accueillir pour la troisième fois, parce que c'est un projet vraiment au long cours que nous faisons avec à la fois la cité scolaire Claude Bernard de Villefranche et la mairie de Villefranche. C'est d'accueillir le chef papou Mundilla Kepanga. Donc, qui vient, donc il est venu il y a 3 ans et puis je crois encore 3 ans auparavant. Voilà, un documentaire a été fait en fait voilà. sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée d'où il vient, puisqu'il s'est vraiment mobilisé pour la sauvegarde des forêts de son île. Et là, il y a un nouveau documentaire qui a été fait qui s'appelle Gardien de la forêt, le temps des solutions. Et on va proposer ce film en sa présence et en présence du documentariste Marc Dozier, qui va aussi servir d'interprète. Hein.
Et c'est essentiellement dirigé vers les élèves ?
Alors, en journée, oui, mais le soir, donc, c'est une séance tout public.
D'accord.
Voilà. Et c'est quand même assez exceptionnel de pouvoir échanger avec un chef papou. Voilà, c'est aussi, quand on parlait de notre ligne éditoriale, nous, c'est vrai qu'on aime beaucoup proposer aussi des films sur différents sujets de société et notamment tout ce qui concerne l'environnement, l'écologie, ça nous tient vraiment à cœur.
Vous proposez beaucoup de documentaires ?
Oui, on propose énormément de documentaires.
Okay. Ouais. Et certains sont vraiment de qualité de nos jours.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous, on milite pour... Enfin, pour nous, on ne fait pas de distinction. Un documentaire, c'est un film.
C'est du, ouais.
Voilà, et on tient à programmer ce qu'on appelle le documentaire d'auteur. Voilà.
Et ça sera pour rappeler la date
Ce sera le lundi 26 mai à 20h.
Lundi 26 mai à 20h.
Bien, ça va pour les événements. D'autres peut-être, ou c'est déjà pas mal d'ailleurs pour le mois de mai.
Oui, ça fait déjà pas mal.
Ouais.
Alain, est-ce qu'on parle de quelques films qui vont encore sortir ?
Oui, je voulais parler des Arènes. Donc c'est une réalisatrice, c'est Camille Perton. Ah oui, je voulais corriger une petite chose avant. On a parlé de Mission Impossible, désolé d'y revenir. Tu nous en reparleras peut-être aussi tout à l'heure.
Un petit peu. Ouais.
Un petit peu. Et c'est pas le 7 mai, c'est le 21 mai. Voilà.
Ah oui, c'est juste, important. Oui.
Alors donc les Arènes, par contre, là c'est bien le 7 mai. Et donc, c'est à tout juste 18 ans, c'est Brahim. C'est un jeune footballeur prometteur et présenté par son agent et cousin Mehdi, à un manager. Il s'apprête à réaliser son rêve, signer son premier contrat professionnel à Lyon. Mais l'arrivée d'un puissant agent étranger qui est Francis dans le film, c'est Edgar Ramirez. Et du reste, ce personnage, enfin cet acteur a un charisme incroyable. Il est presque inquiétant, sans dire de mots. C'est un jeu assez fort. Il a joué précédemment dans Cuban Network en 2019. Et donc cet agent rebat un petit peu les cartes. Et dans cet univers où tous les coups sont permis, même la loyauté en fait a un prix. Voilà. Donc la réalisatrice Camille Perton s'attaque frontalement à un univers souvent fantasmé, celui du football professionnel en devenir. Donc le film ne se passe pas sur les terrains, mais il se passe dans les coulisses. C'est vraiment la focalisation du film. C'est sur les tractations pour obtenir des services d'un joueur qui, lui, est débutant, qui cherche à faire sa place dans ce monde. Voilà. La force du film réside dans sa capacité à créer une tension constante, sans effet spectaculaire. Le scénario est resserré, l'image épurée, le montage précis. Les scènes s'enchaînent comme des duels muets. Regard, silence, hésitation. Les hors-champs deviennent un outil narratif essentiel. Donc Camille Perton ne montre pas tout, mais suggère beaucoup. Et cela suffit à faire monter la pression.
Coupez ! Ok, elle est bonne. C'était formidable, Billy.
Retrouvez votre émission Kinopsis en réécoute sur radio-calade.fr.
Calade, ma radio.
Un autre film, Alain ?
Un autre film. Oui, un film que tu avais envie de voir, mais que tu n'as pas eu le temps de voir, je crois, c'est Shameless.
Ah oui, Shameless. Moi, je dis Shameless, mais peut-être ai-je tort.
Oui, pourquoi pas. Mm. Bon, on n'est pas forcément très fort sur les langues. Voilà, alors c'est tourné par un réalisateur bulgare et pourtant ça se passe en Inde. La sortie est prévue le 14 mai. Voilà, c'est une coproduction, hein, Bulgarie, France, Suisse aussi et l'Inde. Donc Shameless est un drame romantique et criminel réalisé par Constantin Bojanov. Donc, il a été présenté l'année dernière dans la rubrique Un certain regard au Festival de Cannes. Voilà, il sort maintenant, pratiquement un an après. Et le film suit Renuka. Donc, c'est une prostituée qui fuit un bordel de délit après avoir tué un policier. Elle trouve refuge dans une communauté de travailleuses du sexe dans le nord de l'Inde, où elle entame une romance interdite avec Devika. C'est une jeune fille de 17 ans destinée à devenir... Alors là, ça, j'avais pas compris en voyant le film ce que c'était. Je l'ai vu après. À devenir Devadasi.
Pardon ?
Devenir Devadasi, entre guillemets. Et c'est une pratique traditionnelle illégale où les jeunes filles sont vouées à la prostitution rituelle.
Ah, d'accord.
Voilà, alors je fais un petit aparté ou pas ?
Vas-y.
Parce qu'on va grignoter les minutes, là.
Oui, mais peu.
Alors, les Devadasi, en fait, au départ, c'est dans le rite hindou. Et c'était plutôt des femmes qui accompagnaient les rituels, etc. Et puis petit à petit, ça a dérivé, c'est-à-dire elles pouvaient se prostituer parce que ce qu'elles faisaient, eh ben, retournait en fait au culte.
Ah.
Hein, l'argent qu'elles pouvaient récolter, d'accord, servait, etc. Et puis ça, c'était le début du 20e. Et petit à petit, les choses ont dérapé. Voilà, et c'est devenu, donc, même si ça a été interdit par la suite, en 1988, cette pratique, elle continue à être faite.
Ok Alain, moi j'aimerais parler d'un film qui s'appelle Les Jeunes Mariés, ou Jeunes Mariés tout court, pardonne-moi, des Frères Dardenne. Le film va sortir le 23 mai, non pas le 21, ce qui est bon, mais peu importe. Et il dure presque deux heures, c'est 1h45, avec Babette, alors j'ai sans doute mal prononcé le nom des actrices, avec Babette Verbeek, Elsa Houben, Janaïna Aloa Fokan. Il est en compétition à Cannes. Jessica, Perla, Julie, Ariane et Naïma sont hébergées dans une maison maternelle qui les aide dans leur vie de jeunes mères, cinq adolescentes, qui ont l'espoir de parvenir à une vie meilleure pour elles-mêmes et pour leurs enfants. Un autre film, Alain ?
Oui, Marco, l'énigme d'une vie. Donc c'est un film espagnol qui est le réalisateur, c'est Heitor Arregui et John Garagno.
On écoutera peut-être...
Je ne parle pas l'espagnol. Peut-être Bérangère, tu parles espagnol. Tout à l'heure, tu as dit... Ah bon, mais c'était super tout à l'heure. Voilà, donc c'est...
Oui, je disais, on écoutera peut-être une partie de la bande-son.
Oui, oui.
Juste après ton intervention.
Voilà, c'est un film qui a déjà participé à plusieurs festivals, la Mostra de Venise l'année dernière, le Festival de Saint-Sébastien aussi, donc, et qui a obtenu le meilleur, le Goya en 2025 du meilleur acteur. Pour Édouard Fernandez, meilleur maquillage aussi, voilà. Donc, il a participé au Festival international d'Arras, ça c'était aussi l'année dernière, et au Festival du film d'histoire de Pessac. Alors, Marco, l'énigme d'une vie. Donc, ça c'est un drame biographique, une œuvre captivante qui explore les méandres de l'identité et de la vérité. Le film retrace l'histoire d'Henrique Marco, président d'une association des victimes de l'Holocauste, dont le passé est remis en question par un historien. Et donc le scénario évite le piège du pathos et se concentre sur la réflexion. Ce qui fascine, ce n'est pas tant la supercherie que ce qu'elle révèle, c'est-à-dire le besoin universel de reconnaissance, la perméabilité entre l'histoire intime et l'histoire collective, et cette zone grise entre vérité et fiction.
Oui, tu termines peut-être.
Je sais pas.
J'ai très très envie d'une pause musicale.
Oui, bah je termine alors. Donc le film ne cherche pas à excuser mais à comprendre et c'est ce qui le rend essentiel.
Tu as terminé ?
Oui.
Fort bien, alors une petite pause musicale avec un extrait de la BO de Marco.
C'était
pas mal, mais on va essayer
autre
chose.
Kinopsis.
Autre film dont la sortie est prévue très bientôt, c'est-à-dire le 28 mai, il s'agit de Hot Milk. Hot Milk est un film de Rebecca Lenkiewicz, et j'espère bien prononcer le nom de la réalisatrice, avec Emma Mackey, Fiona Shaw, Vincent Pérez, dans un rôle qui est un peu particulier. Et puis la fabuleuse Vicky Cripps. Voilà. Donc par un été étouffant, je vous lis le synopsis, pardonne-moi. Par un été étouffant, donc Rose et sa fille se rendent à Almeria, dans une station balnéaire du sud de l'Espagne, pour consulter l'énigmatique docteur Gomez, joué donc par Vincent Pérez, qui pourrait soigner la maladie de Rose, clouée dans un fauteuil roulant. Sophia, jusque-là entravée par sa mère, possessive, s'abandonne au charme magnétique, c'est l'expression que j'ai cherchée tout à l'heure, Alain, le charme magnétique d'Ingrid, qui est jouée donc par Vicky Cripps, une baroudeuse qui vit selon ses règles, tandis que Sophia s'émancipe S'émancipe, mais je vais tourner la page. S'émancipe. Rose ne supporte pas de voir sa fille donc lui échapper. Et c'est de vieilles rancœurs qui vont à nouveau se faire jour dans la relation qui unit ces trois êtres. Voilà, c'est un film intimiste que j'ai vu avec plaisir, même si la psychologie n'est pas exactement fouillée. Ça reste un film amer, pessimiste. La fin le démontre bien. Les personnages sont parcourus de cette rancœur qui semble collée à leur peau, à telle enseigne. Mais je ne peux pas vous en dire plus, parce qu'il faut vraiment voir la fin. Voilà, je me tais donc, sans, comment dit-on encore, spolier la fin.
Dévoiler, dévoiser en français, ouais, dans le texte.
À dévoiler, ouais. À toi, Alain.
Moi, je voulais parler d'un film qui a été présenté à Reims Polar et qui sort donc le 28 mai. Ça s'appelle L'ultime braquage. Alors, je vous invite à le voir en version originale, sous-titrée. Je l'ai vu aussi, enfin, des extraits en français. Non, ce n'est pas la même chose quand même, parce que c'est inspiré d'un fait réel. Hein. C'est L'ultime braquage revisite avec intensité le plus grand vol de l'histoire du Danemark. Mmh. Vous allez dire, mais c'est tout petit. Oui, mais il y a beaucoup de sous quand même au Danemark. C'est plusieurs millions d'euros qui ont été subtilisés. Donc, c'est sous la direction nerveuse de Frédéric. Alors là, je prends des risques aussi. Frédéric, lui, Vide, H-V-I-I-D. Mmh. Bon, en danois, ça donne peut-être autre chose. Il avait fait précédemment Shorta. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Non. Shorta, c'était aussi un film très nerveux, un peu sur le thème de Bac Nord. Voilà. Le film mêle avec précision du thriller et de la profondeur psychologique, dressant le portrait d'un groupe de criminels soudés par la nécessité, mais minés par la défiance et la peur. Donc, au centre de l'intrigue, il y a Gasper, c'est un ancien boxeur brisé par la vie et qui voit dans ce braquage une dernière chance de se racheter. Il découvre vite que la loyauté n'a pas sa place au sein de cette équipe internationale, aux intérêts divergents. Et donc Slimani Reta Kateb, qui parle danois dans le film. Hein.
Oui.
Voilà. Le cerveau impose son autorité avec calme, mais chaque décision cache une tension sourde entre méfiance, ambition personnelle et peur du faux pas. Voilà. La réussite du film tient autant à la rigueur de la mise en scène qu'à la densité émotionnelle de ses personnages. Et alors, je dis, il y a une chose aussi, là, Oui, tu voulais...
Non, je te laisse terminer. Je voulais poser une question ensuite à Bérangère.
D'accord.
Je te laisse terminer.
Alors, n'arrivez pas en retard à la projection de ce film, parce qu'il y a une scène, on va dire, allez, pour la qualifier, une scène d'anthologie au début de ce film. La façon dont c'est filmé, voilà, j'en dis pas plus, mais elle est impressionnante et elle pose le film déjà dès le départ. Elle pose aussi les personnages. Et c'est une scène très forte qui ne dure pas très longtemps, mais qui marque le film.
Ok. Bérangère, est-ce qu'il y a des films dont tu as retenu, qui t'ont marqué tout à fait récemment?
Là, qu'on programme en ce moment.
Oui, par exemple. Ou peu avant, peu importe.
Oui, tout à fait. Eh bien, en ce moment, nous aurons à l'affiche Berger, par exemple.
Ah, oui.
Voilà, peut-être que vous l'avez déjà programmé.
Je l'ai vu, il est programmé à Belleville aussi.
Oui, je trouve que c'est une proposition tout à fait originale voilà, c'est l'histoire d'un jeune Québécois, d'ailleurs, qui décide de rompre avec son travail. Il est dans une agence de publicité pour être berger en Provence, donc en France. Alors, c'est vrai que ce point de départ, on se dit, on est sur sur un petit peu le rêve qui est traversé dans la tête de pas mal de personnes. Mmh. Mais le film, justement, va pas dans le côté idéalisé du métier. Il montre bien la difficulté de ce métier.
Et elles sont nombreuses, les difficultés. Hein.
Elles sont nombreuses. Ce n'est pas du tout un film idéalisant, mais c'est quand même un film qui montre aussi comment, à travers un métier complètement différent, on peut aussi s'épanouir. Quoi.
Mmh. Excellent film. Ouais. Alain, un autre ? Pour en finir peut-être.
Oui, je voulais parler d'un film qui m'a beaucoup touché. C'est Enfant rouge. C'est un film tunisien. De Lofty Achour. C'est une coproduction Tunisie, France, Belgique et Pologne. Et c'est des enfants, en fait, qui sont amenés, en fait, qui gardent des troupeaux et qui découvrent la nature, la liberté, etc. Enfin, l'enfance, l'insouciance de l'enfance. et ils rencontrent sur leur chemin un groupe djihadiste. Et c'est à partir de là que commence un voyage aussi tragique qu'émouvant. Alors, c'est pas un film sensationnaliste. Au contraire, Lofty Achour choisit de traiter cette histoire avec beaucoup de pudeur. Il ne montre pas frontalement la violence, il la suggère. Il y a une atmosphère aussi parfois un peu étrange, presque irréelle, et un choix audacieux qui donne au film une vraie dimension émotionnelle. Voilà. Les Enfants Rouges, c'est un film que l'on garde en mémoire pour la jeunesse de ce pays, et pas facile, bien sûr.
On fait à nouveau une petite pause musicale avec la musique du film Les Musiciens. Voilà, ça c'était la musique des musiciens. Bérangère, je crois que vous l'avez programmé
oui.
Aux 400 coups.
Il est actuellement à l'affiche, effectivement, au cinéma Les 400 coups. Oui, c'est le nouveau film de Grégory Magne. Voilà, donc l'histoire d'Astrid, qui est interprétée par Valérie Donzelli, qui va vouloir, un peu en souvenir de son père décédé, parce que c'était son rêve, réunir 4 Stradivarius. Et embaucher 4 virtuoses musiciens pour faire un quatuor, un concert avec ces 4 instruments mythiques. Voilà. Mais c'est un film, même si on n'est pas mélomane, on peut l'apprécier, parce que ça parle aussi de ce que c'est que faire groupe, de s'entendre, voilà, pour de s'écouter. Et puis, il y a le formidable acteur Frédéric Pierrot. Voilà, qui joue le compositeur Charlie Beaumont. Et c'est vrai que dès que son personnage arrive dans le film, ça prend encore une autre tournure. Il est vraiment excellent. Ouais.
Mmh. Alain,
je voulais
des événements. Oui. Et d'un film peut-être que tu n'as pas...
Un dernier film que je n'ai pas trop apprécié, mais qui a un intérêt
historique.
C'est intéressant, historique, et puis c'est intéressant d'aller le voir. Et puis c'est aussi d'actualité, parce qu'on parle de la Roumanie. Mais là, c'est de la Roumanie en décembre 1989, où c'est en fait des événements qui ont amené à la chute de Ceausescu. dont le réalisateur, c'est Tudor Georgi, qui nous plonge en fait sans ménagement, on va dire, dans les affrontements violents entre civils, armées, Securitas, police, terroristes, etc. C'est une période trouble, mouvementée, et il y a la confusion, hein, en plus de l'atmosphère de tension. Voilà, c'est une révolution en marche. Cependant, ce qui m'a posé, moi, problème pour apprécier pleinement ce film, c'est que cette confusion de ce moment historique, il se retrouve aussi, en tant que spectateur, on est un peu perdu par tous ces personnages. Mmh. On ne suit pas des personnages en particulier, voilà, les personnages s'entrecroisent, ce qui fait qu'au final, on ne sait plus qui est qui fait quoi, qui est le terroriste, qui est la Securitate, qui est, voilà. Donc c'est un petit peu le reproche qu'on peut faire. Ça reste toutefois un film intéressant pour justement cet aspect de retracer un moment historique.
C'est bien noté, c'est bien noté. Tu avais aussi à Belleville, au singulier, un événement qui devait avoir lieu mi-mai.
Oui, le 15 mai, donc on va recevoir le réalisateur Lana et Thierry Jourdan, qui sera accompagné par la Fondation Frédéric Gaillane. Mmh. La particularité ou le rôle, l'action de cette fondation, c'est de faire en sorte de donner, enfin, ou de pouvoir offrir un chien guide à des jeunes, à des enfants qui sont aveugles.
Après les avoir éduqués, les chiens.
Oui, bien sûr. Ouais.
On est bien d'accord.
Vaut mieux,
hein. Non, c'est bien l'assaut qui les éduque.
Oui, c'est ça. Enfin, je pense qu'ils font appel à des dresseurs.
Oui, bien sûr.
Mais eux, ils trouvent les financements.
C'est ça. Ouais.
Voilà. Et donc, le film s'appelle La vie de Lise et ça sera en présence de tout ce monde et de Manon et de son chien.
Voilà. On change de registre avec un tout petit coup de gueule, mais ça va être très léger, rassurez-vous, à propos du film dont tu as parlé tout à l'heure, Alain, de Tom Cruise, que j'aime bien nommer Tom Cruise. Mais c'est mon... voilà. Alors, ce que j'ai à en dire, moi, je dis simplement, on se fait à tout, et c'est bien là le propre de l'homme que d'oublier ce qui peut oblitérer ses rêves. Et la question qui se pose est toujours la même. Doit-on ou pas séparer l'homme de son œuvre ? Grande question, n'est-ce pas, qui agite les agités du bocal, comme disait l'autre, et qui ne trouve pas toujours de réponse, n'empêche. Tom Cruise, omniprésent, pose question. Celui qui eut comme épouse Nicole Kidman, eh oui, fait partie de ces acteurs qui ont eu le mérite de jouer dans des blockbusters de qualité, faut bien le reconnaître. On dit de ses performances qu'elles sont exemplaire, que c'est un grand acteur, blablabla, blablabla, blablabla. On oublie, on revient au rêve de tout un chacun, on oublie qu'il est un adepte de la scientologie et qu'à ce titre, la simple apparition de son nom dans un générique peut être considérée comme une forme de prosélytisme. Je déplore cet oubli quand on ne voit que sa belle gueule rehaussée d'une mèche de cheveux sur le front et affublée de lunettes de soleil. De Marc, s'il vous plaît. Je fais partie de ceux qui, en littérature, font le distinguo entre l'homme et son œuvre. De Louis-Ferdinand Céline, j'ai l'habitude de dire qu'il fut un grand salaud et qu'il aura cependant révolutionné la littérature. On peut allonger la liste, mais pour autant, doit-on oublier, pardonnez-moi, Tom Cruise ? Que penserait-on en France d'un acteur qui se prévaudrait des témoins de Jéhovah ? Sachant que ces tristes individus forment une secte, et c'est bien d'une secte qu'on parle à propos de scientologie. Voilà, alors, chers auditeurs, Alain a une petite réflexion à nous faire.
Oui, la petite réflexion, c'est juste ouvrir une petite porte. Tom Cruise, il a tourné quand même Eyes Wide Shut,
je sais,
de Stanley Kubrick. Voilà, donc il a fait effectivement beaucoup de blockbusters, mais...
Mais pas seulement.
Pas seulement, ouais. Voilà.
La question qui se poserait alors, est-ce que c'était de son fait ? Mais peu nous importe et peu nous chaud. La réponse, ce sera sans doute lors de la prochaine émission. Pour celle-ci, on est aujourd'hui terminé. Mais merci Bérangère d'avoir été avec nous.
Merci de m'avoir invité.
De rien. Et c'était un plaisir.
Oui.
Et puis nous, on se retrouve vraisemblablement, mais c'est sûr, je crois, le mois prochain pour une autre émission. Salut à tous.
Allez, bonne séance.
Retrouvez votre émission Kinopsis en réécoute sur radio-calade.fr. Kinopsis. l'actualité du cinéma sur votre radio locale.